Bonjour et bienvenue à Détour Estival avec Fulgence Blas au micro et son complice Maurice Bolduc à la console. Alors, en première partie d'émission, c'est notre chroniqueuse de sport Myriam Larache et en deuxième partie, le directeur artistique du Festival de la Naudière, édition 2021, Renaud Louranger, qui va nous parler des deux dernières semaines qui restent pour le festival. Restez à l'écoute. Chérie, c'est le nom de la chanteuse, de l'artiste. Comme vous l'entendez, le titre de la pièce c'est Makelele. Ça me fait penser à l'ancien milieu de terrain, le compagnon de Zidane au milieu de terrain dans l'équipe des Bleus, de l'équipe nationale française, Makelele. Ouais, chérie. On a déjà au téléphone notre grande chroniqueuse de sport, Myriam Larache, qui entend tout ce que je raconte d'ailleurs.
Oui.
Bonjour Myriam.
Bonjour Fulgence, bonjour à tous nos auditeurs.
Tu sais qu'il est entraîneur maintenant, paraît-il, Makelele, si je ne me trompe pas.
Il est quoi ?
Entraîneur, quelque part.
Ah oui, ils finissent tous par être entraîneurs, comme Thierry Henry, comme Zidane lui-même.
C'est ça.
Comme les sportifs qui finissent par être des animateurs à la télé, aux JO.
Hein, voilà.
Alors, justement, les JO, Fulgence.
Oui.
Alors, nous sommes au cœur des JO, après une cérémonie, je ne sais pas si tu l'as vue, sobre, méticuleuse et sans fioritures, il faut le dire.
Oui.
Tandis que le sixième jour de compétition est fini aujourd'hui et nous sommes déjà aux abords du septième qui va commencer d'ailleurs dans à peu près 2 heures.
Est-ce que tu arrives à dormir toi ou bien il y a des choses que tu rates quand même.
Je vais dire la vérité, les 3 derniers jours j'ai dormi à 3h30 du matin.
C'est pas vrai.
À un moment donné j'enregistre. Mais bon, on va pas raconter ma vie privée.
Ah non, je sais que c'est les JO, je savais que tu allais devant ta télé.
Oui, parce que j'adore ça.
C'est
alors l'émotion est au rendez-vous, Fulgence. On a les larmes de joie pour certains et de la déception pour d'autres. Des surprises ou des certitudes, de l'acharnement ou de l'abandon, comme d'ailleurs, juste en parenthèse, l'américaine célèbre en gymnastique Simone Biles,
oui,
qui a abandonné les Jeux pour santé mentale.
Elle va pas bien.
Oui, elle va pas bien. Alors, tout y est, comme chaque édition des Jeux Olympiques. Et surtout, chacun, en fait, a une histoire saisissante lors de son parcours pour arriver à ces Jeux.
Oui.
Ce sont des Jeux qui restent quand même humains, d'où les fortes émotions que l'on voit pendant les compétitions, les épreuves.
Et surtout les conditions dans lesquelles ces artistes, ces athlètes ont préparé ces Jeux. Voilà.
Exactement. Mmh. Alors, sachez tout de même que le protocole de Covid-19 a ses effets bénéfiques soupçonnés, car nous voyons quelque chose de très joli, comme lors de la remise des médailles, qu'on va remarquer ou que vous avez déjà remarqué, quand il y a des duos gagnants ou des équipes gagnantes sur le podium,
oui,
elles se donnent chacune à l'autre ou chacun à l'autre, donc les médailles et les bouquets.
Oui.
Alors, parce qu'à cause de la Covid, le présentateur des médailles ne peut pas l'accrocher au cou.
Oui, c'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs.
Ils se donnent entre les athlètes, donc les médailles, c'est sympathique. On a aussi un léger assouplissement qui a été annoncé par le CIO pour les médaillés. Ils peuvent maintenant enlever leur masque pendant 30 secondes, le temps de faire des photos sur le podium.
30 secondes.
Alors, on voit enfin leur visage, parce que bon, c'est vrai que pendant les épreuves, on les voit bien.
Oui.
Mais mettons, quand ils prennent la photo avec la médaille, on aimerait savoir leur sourire. Et là, ils enlèvent le masque pendant 30 secondes pour les médias.
Oui.
Alors, c'est sûr que je ne pourrai pas tout vous rapporter, mais nous allons mettre la lumière sur certains résultats, notamment sur notre délégation canadienne. Alors, on plonge, le mot est exact, on s'en va en natation. Les femmes ont raflé quelques médailles, et surtout la première que le Canada a reçue, et c'était au relais 4x100 mètres libres, où Kayla Sanchez, Margaret McNeil, Rebecca Smith et Tenny Oleksiak ont remporté donc la médaille d'argent. C'était les premières qui ont brisé la glace.
Oui, 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 on l'a dit, bravo.
Oh oui. La nageuse Margaret McNeil l'a remportée un jour plus tard, le 100 mètres papillon, pour donner au Canada une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'était une surprise. Et elle a reçu ainsi sa deuxième médaille d'or, puisqu'elle était dans l'équipe de relais.
Oui.
La troisième médaille, elle a été donnée en argent, toujours en natation, cette fois par Kylie Mass, au 100 mètres d'eau. Une nageuse d'ailleurs toujours au rendez-vous lors des compétitions internationales, on n'en parle pas beaucoup, mais elle gagne souvent des médailles aux 100 mètres d'eau.
Oui.
Et finalement, la vedette de ces nageuses, dont on n'arrête pas de parler, c'est Penny Oleksiak, celle qu'on retrouve dans plusieurs autres épreuves et la plus médaillée canadienne en passant des JO d'été. Elle a donné la quatrième médaille de bronze aux 200 mètres nage libre. Et ce soir, nous allons la surveiller pour sa finale aux 100 mètres libre. Elle est bien placée.
Ce soir, oui.
Ce soir, vers... Ils disent minuit ou entre 10h et minuit.
Allez, tu vas nous faire le compte-rendu la semaine prochaine.
Alors, c'est le 100 mètres libre, ça.
Oui.
Donc, il faudra la surveiller, c'est très attendu.
Oui.
Toujours dans le domaine de l'eau, on passe au plongeon synchronisé féminin, plateforme de 3 mètres. Et cette fois, c'est la plongeuse Jennifer Abel. Elle est québécoise, on la connaît bien. A laissé derrière elle ses ratés de Rio pour gagner la médaille d'argent avec sa partenaire Mélissa Citrini-Beaulieu. Que de larmes fulgentes de joie et de soulagement pour Jennifer Abel.
J'ai adoré leur plongeon.
Oui, et oui, ça va être peut-être ses derniers Jeux olympiques à Jennifer Abel, elle l'a sous-entendu. Mais on va pouvoir la suivre maintenant aux épreuves individuelles à partir de cette nuit, avec Megan Benfetto, notre Québécoise aussi. Et ça va être difficile face aux invincibles chinoises, parce qu'elles ont la technique, la perfection, la finesse.
Oh, c'est des machines, c'est des machines depuis l'âge de 4 ans.
Exactement.
Oui.
Exactement, c'est incroyable. Alors, au judo maintenant. Oh, le judo. L'Ontarienne Jessica Klimkate a remporté la médaille olympique de bronze lundi dans le tableau des moins 57 kilos, championne du monde en titre de la catégorie. Elle a 24 ans. Elle a vécu la Slovène Kajzer pour la troisième manche du podium. Elle aurait été une adversaire énergique et offensive. Elle voulait l'or ou l'argent. On voit qu'elle a été très déçue. Mais elle en donne sur ces matchs, je les ai vus.
Oui, oui, ensuite, mais au moins elle a eu une médaille.
Voilà, voilà. Elle méritait une médaille. Honnêtement, là, comment elle se bat, c'est incroyable.
Oui.
Ensuite, motivée par tout cela, la judoka québécoise, cette fois Catherine Beauchemin-Pinard, nous a donné la deuxième belle surprise en judo. Elle a eu la médaille de bronze aussi pour les moins 63 kilos.
C'est pas sa première participation, celle-là?
Oui, ça c'est elle, c'est sa première participation.
Ouais.
On l'a vu parler émotivement avec ses parents.
Bravo, bravo, bravo. On lui dit bravo. Oui.
Est-ce que tu as remarqué quelque chose que depuis le début je te parle de médaillées qui sont toutes féminines?
Oh oui, c'est ce que j'ai remarqué. Je dis mais elle est en train de nous de snober les médaillés hommes quoi.
Eh oui, les 10 médailles du Canada pour l'instant, sont obtenues par des femmes.
Ah oui, et puis, de façon que tu avais dit au début, elles sont en majorité, elles représentent, oui, voilà, oui, elles sont plus nombreuses que les hommes, voilà.
Exact. Mmh. En haltérophilie, on a encore une fois Maud Charron de Rimouski, cette fois. Elle a été couronnée championne olympique dans la catégorie des 64 kilos.
Oui.
Elle est montée fièrement sur le podium pour recevoir sa médaille d'or. Elle a même reçu en direct, devant nous, à la télé, un appel du Premier ministre Justin Trudeau qui l'a félicité au nom de tous les Canadiens. Et elle en est restée même bouche bée.
Elle n'en revenait pas.
Elle n'en revenait pas.
Le Premier ministre, il suit ça de près aussi. Hein.
Ah ben oui. Beaucoup, hein, beaucoup de chefs d'État suivent ça. Et c'est l'occasion pour féliciter d'ailleurs
les sportifs.
Il y a même dans les pays moins développés où c'est un changement de vie pour l'athlète. Hein, celui qui gagne, là... On leur offre des maisons, on leur offre beaucoup de choses. Hein.
Oui.
Pour la petite
De toute façon, les médailles, que ce soit médaille de bronze ou bien d'argent, médaille d'or, on leur pèse en d'or, hein, faut le dire.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Alors, pour la petite histoire en haltérophilie,
oui.
Ce n'est pas la première médaille d'or au passage pour le Canada, car Christine Girard, olympienne des Jeux de Londres de 2012, n'a pas connu cette joie, puisque sa médaille d'or, elle lui a été remise 6 ans plus tard, en 2017. À la suite de la disqualification pour dopage des deux haltérophiles kazakhs et russes,
elle est terminée devant elle. Je me rappelle de cette saga-là, oui.
Exact. Mmh. Alors elle, c'est la pauvre, c'est bien plus tard qu'elle a reçu sa médaille d'or. On passe au softball maintenant, j'ai bien suivi les matchs. Intéressant, j'ai appris ce jeu que je ne connaissais pas bien. Je sais qu'il ressemble au baseball, mais avec une balle plus grosse.
C'est tout nouveau, non?
Oui, c'est un des jeux qui est rentré cette année.
Skateboard et autres, là, oui.
Oui, mais il a participé à d'autres Jeux olympiques, je vais le dire plus tard.
Okay.
Cette année, il est donc à Tokyo parce que c'est un sport qui est très prisé en Asie.
Oui.
Alors, les coéquipières canadiennes ont bataillé avec acharnement donc pour une place au podium. Elles ont fini par avoir leur médaille de bronze contre le Mexique 3-2. Elles étaient venues, elles disaient, pour la médaille d'or, d'abord, et la médaille d'argent.
Oui.
Mais elles ont eu des échecs crève-cœur hein, contre les États-Unis, contre le Japon, avec des 0-1. Mais elles ont fini par avoir leur médaille. Le dur labeur a fini par payer. Notons que le softball et le baseball ont été exclus des Jeux olympiques de 2012 et 2016. Ils sont présents cette année à Tokyo.
C'est revenu.
Ils ne sont pas présents à Paris. Ils ne seront pas à Paris.
Mais pourquoi cette année, à Paris, oui, en 2024, pourquoi ils enlèvent
Paris ça ne les présente pas.
OK.
Et ils vont revenir à Los Angeles en 2028.
OK.
Donc, voilà.
Bon, ils ont leur raison.
Voilà.
Le comité a ses raisons.
Ils vont sûrement nous les délivrer quand on va approcher les
c'est
Paris.
C'est
qui
ça.
Ils sont dans 3 ans, hein. Dans 3 ans.
Oui.
Aviron 2 points, médaille de bronze aussi pour les rameuses Kylie Filmer et Hilary Jensen, championne du monde en 2018.
Oui.
Alors, beaucoup d'émotions lors de la remise des médailles. Elles ont laissé leurs larmes couler à flot. Hein. J'ai pleuré aussi, exprimant une grande délivrance après une année.
Myriam est en train de pleurer devant sa télé.
Ah, oui. Très émotive.
Moi, je te dis rien sur moi.
C'est ça, les Jeux olympiques.
C'est ça. Je fais partie des émotionnels, Myriam.
C'est ça, mais parce qu'il y a un psychologue qui est venu dire, hein, pour les Jeux olympiques, c'est une parenthèse qui n'était pas prévue, mais il dit qu'en fait, on s'approprie au fait même la victoire des athlètes dans les Jeux olympiques. Hein. C'est le sport où les gens d'abord s'identifient parce qu'ils nous représentent en tant que pays.
Oui.
C'est des compatriotes. Et on vit avec eux toute l'émotion. Donc, à ce qui paraît que dans notre tête, on a aussi une émotion et un plaisir parce qu'on s'approprie cette victoire pour nous-mêmes.
Oui. Ça, c'est
pour ça qu'on a les larmes faciles aussi.
C'est le rôle du cerveau.
Voilà. Là, je vais finir, Fulgence, sur 2 anecdotes, notre chronique d'aujourd'hui.
Oui.
D'abord, vous parlez de l'ouzbek Oksana Chuzovitina, qui est la doyenne en gymnastique. Devine quel âge elle a, Fulgence. 46 ans.
Attention.
Alors, c'est une discipline souvent dominée. Je ne sais pas si tu as vu la gymnastique par des adolescentes à peine pubères. Hein. Elles sont toutes petites, toutes menues.
13 ans, 14 ans, 16 ans. Oui.
Elle a 46 ans. Alors, je l'ai vu faire son étape de saut. Elle a fait ses adieux ce dimanche, malheureusement, à ses 8e JO en ratant sa qualification pour la finale en saut, car c'est sa spécialité. Elle s'est classée 14e.
Mais on lui dit bravo quand même.
Bravo.
À 46 ans.
C'était un peu choquant, à vrai dire. C'est dommage de dire ça, mais parce qu'on les voyait toutes à côté, toutes menues, toutes frêles. Et elle était avec un peu des mèches grises dans ses cheveux.
Oui,
Un corps quand même qui reflète ses 46 ans, malgré la musculation. Hein.
Oui.
c'est un peu, c'est spécial. Il faut le dire, c'est spécial. Je suis honnête, je le dis. Bon, voilà.
Je vais aller chercher la vidéo pour.
Mais je
pour...
suis quand même admirative.
Oui. Face à oui,
ça.
Oui.
Alors, elle a fait ma. Donc, elle s'est classée 14e. Elle est sortie en pleurant, hélas, quand elle a vu son classement, parce que c'était fini. Elle n'est pas sûre. Elle est même certaine de parvenir pour les prochains JO. Rappelons tout de même qu'elle a participé à ses premiers JO en 92 à Barcelone. Et Chuvozovitina avait reçu l'argent ensuite à Pékin en 2008. Donc voilà, et ben, elle nous a quittés et oh. C'était beau à voir. La grande surprise aussi, la sensation de l'heure qui a été en début de semaine, c'était oui. Le Tunisien Ahmed Afnaoui.
Lui, là.
Qui a réalisé un exploit.
Ils ont...
un exploit.
Myriam, ils l'ont mis au couloir 8.
Oui, c'est ça que j'allais dire, au dernier couloir.
Au dernier
les
couloir.
Commentateurs, c'est drôle, parce que les commentateurs lui ont donné aucune chance d'abord parce qu'il était au couloir 8.
Et après, ils se sont dit, ils se sont demandé, mais c'est qui ça?
Mais surtout parce que les favoris qui sont les Australiens,
ou les Américains,
le Néerlandais,
oui, oui.
Et le
comme d'habitude.
Aussi, d'ailleurs.
Mmh.
Voilà. Alors, qui était au milieu. Il
l'a
remporté,
moi je ne
croyais pas mes yeux.
Ah, on est
bravo. Il a gagné le Tunisien.
À peine 18 ans. À peine 18 ans.
Oh, 14 mètres nage libre.
Alors, j'adore.
Il a été la sensation de l'heure pendant le début de la semaine.
C'est ça.
Il sera l'effigie de son pays, je pense, pour un bout.
Il risque d'avoir sa statue là-bas.
Ah oui. Mais il faut rappeler quand même qu'ils ont eu déjà un Olympien au 1500 mètres tunisien. Hein.
Oh, oui, oui, oui. Donc, oui. Mais celui-là, à peine 18 ans, là, non. Il a bluffé.
Il est très jeune. Il est très jeune.
Il n'avait rien à perdre. Il a foncé
mais
et puis il a
ça,
gagné.
C'est
ouais.
Ça, la beauté des Jeux Olympiques.
Même pas bronze ou bien argent. L'or.
Il a raflé l'or.
Merci beaucoup, Myriam.
Alors voilà, je vous dis au revoir.
Merci.
L'athlétisme commence demain. Aïe, aïe, aïe.
Oh.
Hein? Oui, ça rentre en jeu. Oh. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et c'est un rendez-vous pour vous raconter tout ça.
Alors, allez, l'année prochaine, tu vas nous parler un peu des équipes de football féminines, là aussi. Les,
c'est oh, pas mais si c'est... il ne faut pas oublier que nous sommes à la pointe en volleyball de plage. Ça aussi, waouh, on a des équipes fabuleuses.
C'est ça.
Et le cross continue, le football continue, je vous laisse, le rugby chez les femmes aussi continue parce que les hommes ont été éliminés.
Oui.
Alors, vous avez, en plus, le cheval va commencer. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup encore de disciplines à regarder pour tous les goûts. C'est ça qui est bien.
Merci beaucoup, Myriam.
Allez, à la
bonne
semaine
fin de journée. Allez, à la semaine prochaine. Merci.
Bye.
Bye. Catherine Dagener, dégrisée, voilà, dégrisée. Voilà, je vais parler rapidement. Aujourd'hui, c'est le 29 juillet 2021, bien sûr, c'est le jour du dépassement. Voilà, le dépassement de la Terre. Bon, cette année, dès aujourd'hui d'ailleurs, l'humanité aura dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Nous vivons 5 mois dans le rouge, depuis 5 mois. Voilà, ici, la protection des forêts permettait de repousser cette date fatidique? Non, je pense pas. Voilà, il faudrait 2,9 planètes Terre pour subvenir aux besoins de l'humanité si nous vivons tous comme les Français. Voilà, ils vivent pas bien les Français, c'est pas des gens à suivre, c'est pas des exemples à suivre. Donc tous les ans, l'ONG Global Food Network calcule le jour du déplacement Overshoot Day en anglais, comme on dit, sur la base de 3 millions de données statistiques de 200 pays. C'est la date à partir de laquelle l'empreinte écologique dépasse la biocapacité de la planète. Autrement dit, le jour à partir duquel nous avons pêché plus de boissons, abattu plus d'arbres, construit et cultivé plus de terres que ce que la nature peut nous procurer au cours d'une année. Donc, ça marque également aussi le moment où nos émissions de gaz à effet de serre par la combustion d'énergie fossile auront été plus importantes que ce que nos océans et nos forêts peuvent absorber. Là, vraiment, c'est... Donc, depuis les années, ça fait peur. Hein. Moi, c'est des données qui me font toujours peur. Donc, depuis les années 70, la date du dépassement ne cesse d'avancer. La première fois, cela n'a pas été le cas l'année dernière parce que les mesures prises pour faire face à la crise sanitaire ont en effet fait reculer la date de 3 semaines. Donc, le confinement a conduit à une réduction de l'empreinte carbone mondiale de 14,5%. Malheureusement, ce recul aura était éphémère. En 2021, le jour du dépassement intervient avec 24 jours d'avance sur l'année passée. Voilà. Actuellement, nous utilisons 74% de plus que ce que les écosystèmes de la planète peuvent régénérer, soit l'équivalent voilà, des ressources qui produisent 1,7. Voilà, c'est 5 mois dans le rouge. Nous sommes face à une urgence écologique. Ça, c'est que les urgences qui à ce jour, malgré les alertes répétées des scientifiques, pas traitées comme telles. Voilà, dit la directrice générale du WWF France, Véronique Andrieux. Donc, cette date du 29 juillet 2021 qui correspond à cette journée d'ailleurs où l'humanité aura utilisé autant de ressources biologiques ce que la Terre peut nous donner. Voilà, si nous voulons faire reculer le jour du dépassement et maintenir nos conditions de vie sur Terre, nous devons mettre un terme à la déforestation. Nous devons beaucoup plus penser à la réforestation, voilà. Au lieu de déboiser, il faut reboiser, il faut reforester, dit Arnaud Gauffier, directeur des programmes de WWF France. Donc, voilà, c'est une bonne prise de conscience de tout le monde. On va en musique pour terminer cette première partie de l'émission.
Ça fait depuis l'enfance que je connais Pauline. Je n'ai jamais eu la chance d'être sa copine. Ah ah ah. Elle avait l'air plus grande, ses jambes étaient si fines. Il y avait dans sa bande que les plus jolies filles. Ah hum, hum, oh Pauline, pendue à tes bottines. Les garçons passaient tous à côté de moi. Oh Pauline, belle comme une ballerine. Je les comprenais, je ne leur en voulais pas. On a suivi nos routes, un peu en parallèle. Moi surmontant mes doutes et toi de plus en plus belle. Oh oh oh, j'ai trouvé ce garçon qui me trouvait je ne sais quoi. Mais tu connais son nom et tu le veux pour toi. Oui, tu le veux pour toi, oh Pauline. J'ai pas ta poitrine, mais mon cœur bat pour lui, ne me fais pas ça. Oh Pauline, moulée dans ton jean, tu sais que je ne peux pas lutter contre ça. Je ne suis pas stupide, tu peux claquer des doigts, en faire un chien de cire qui ne vivra que pour toi. Oh, oh, oh. Pour toi ce n'est qu'un jeu, tu l'oublieras demain. Moi je suis folle amoureuse, s'il me quitte c'est la fin. S'il fin, oh Pauline, rose pleine d'épines. Tu le blesseras un jour, alors laisse-le-moi. Oh Pauline, range tes canines. Laisse le bonheur aux autres, au moins pour cette fois. Oh Pauline, oh Pauline, laisse le bonheur aux autres, au moins pour cette fois.
Pomme avec la complicité de Fanny Bloom. Pauline, c'est le titre de la pièce. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, nous allons recevoir Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de la Naudière, pour nous parler des deux dernières semaines. Les détails un peu plus tard.
Détour estival avec Fulgence Blas.
Oh!
Carina Gauvin, oh, take me from this hateful light. Voilà, cette grande dame, d'ailleurs, que vous allez entendre cette fin de semaine. Ça, c'est clair. C'est au Festival de la Naudière, bien sûr, musique classique. Cette grande chanteuse québécoise qui, pour ceux qui sont déjà là-bas, vous n'allez pas rater les déplacements. Voilà, on valait le coup. Hein. Carina Gauvin, take me from. En attendant que, bon, si c'est la technique, hein, le problème de téléphone avec l'invité, si on n'a pas, moi, d'une façon, j'ai toute ma documentation ici pour parler de ce festival-là des deux dernières semaines qui restent. Ouais, le romantisme et ambiance champêtre pour le troisième week-end. Voilà. Donc, on va essayer rapidement de je ne sais pas si. Et il va être joint tout de suite afin qu'on puisse aller de l'avant avec lui. Comment il se sent, lui, en tant que directeur artistique? Sinon, moi, je vais tout de suite continuer avec ma préparation, parler de ces deux semaines, des différents spectacles qui vont avoir lieu. Cette fin de semaine et puis la fin de semaine prochaine, bien sûr, parce que ça va jusqu'au 8 août, si je ne me trompe pas. Cette 44e édition de ce festival, d'ailleurs. Et puis, bon, ben, je pense bien qu'on va être en mesure de vous informer, je vais être en mesure de vous informer au maximum. Voilà. Voilà, vendredi, aujourd'hui, c'est jeudi, c'est demain le 30. Hein. Il y aura l'Orchestre Symphonique de Montréal, là, sous la baguette de Jacques Lacombe, qui va offrir le pétillant concert champêtre pour clavecin et orchestre de Poulenc, avec la Québécoise. Voilà, avec la Québécoise Mélissante McNamee, qui fait ses débuts comme soliste au festival. Donc, la première symphonie de Prokofiev et la France Symphonie numéro 104 de Haydn, qui va compléter la soirée d'ailleurs. Ouais, et puis le romantisme à la française, ça va être le samedi 31 20h. La musique française est à l'honneur avec l'Orchestre Symphonique de Montréal. Voilà. Alors, notre invité est là. Oui, on propose, la technique dispose. Bonjour, Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de la Naudière.
Bonjour.
Comment allez-vous, Renaud?
Très bien, très bien. C'est un plaisir de vous parler à nouveau.
Moi aussi. Est-ce que vous êtes toujours en émotion après les deux premières semaines? Et puis bon.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Puis la deuxième week-end, c'est très, très bien déroulé aussi. Beau succès, belle salle, beau concert. On est très heureux.
Oui, oui. Vous n'avez pas eu la chance d'écouter. On a fait passer une chanson de Carina Gauvin.
Ah, merveilleux.
Ah ouais. Oh, take me from this hateful light. Et on va passer aussi une pièce de quelqu'un qui fait partie de votre programmation, Marc-André Hamelin, un peu plus tard.
Ah ben oui, bien sûr, ouais.
Alors, parlez-nous un peu des événements qui se sont passés avant qu'on attaque les événements qui restent à montrer.
Oui, ben assurément. Donc on avait en fait deux merveilleux concerts. Bon, on a eu trois concerts le week-end dernier. On a accueilli à nouveau les Grands Ballets, hein, les Grands Ballets indiens.
Oui.
Le 23 juillet, c'est eux qui avaient clos l'édition 2019 du festival.
Ok.
Donc, c'était quand même touchant de les revoir. Ils ont présenté une merveilleuse chorégraphie sur la musique du Requiem de Brahms.
Oui.
Johannes Brahms, et ensuite on a eu deux concerts, une espèce de résidence, là, si vous voulez, avec les Violons du Roi, l'Orchestre de Québec, dirigé par Nicolas Ellis, jeune chef québécois très prometteur.
Oui.
Notamment une soirée autour de la musique d'Astor Piazzolla avec Kirsten Leong, un violoniste canadien, et la magnifique Karina Gauvin, soprano québécoise, qui était avec nous donc dimanche dernier. Et puis deux concerts, encore une fois, à guichet fermé, puis un public très, très enthousiaste.
Oh oui. Alors, dans la programmation de ces deux week-ends qui nous restent là, moi vraiment j'ai tout souligné ici et je me suis dit bon le 23, le 24, le 25, aujourd'hui c'est le 29, là on va partir directement là-bas pour que les gens sachent au moins qu'est-ce qui les attend demain vendredi le 30.
Voilà, on retrouve l'OSM en fin de semaine, deux concerts aussi donc vendredi et samedi
sous la baguette de Jacques Lacombe.
Voilà, tous les deux sous la direction de Jacques Lacombe qui nous a fait une extraordinaire 5e symphonie de Beethoven en ouverture du festival il y a quelques jours.
Oui.
Donc là, on est un peu sur des chemins de traverse, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on présente des œuvres moins connues de compositeurs qu'on connaît pourtant très bien. Hein. Je pense à demain, par exemple, une symphonie de Joseph Haydn, sa toute dernière, en fait, sa symphonie numéro 104. Hein, il a écrit 104 symphonies.
Oh, oui, oui. 104, oui, oui. Oui. 104e symphonie.
Oui, voilà, qui est une de ses plus belles symphonies. Mm-hmm. Et puis, c'est l'idée, si vous voulez, de... comment dire? De voyager dans le style classique.
Oui.
Haydn était vraiment le père du style classique, puis même tout le genre a pris ce nom-là. Hein. La musique, on dit toujours la musique classique. Voilà. Et donc, on a aussi une symphonie de Prokofiev, première symphonie de Prokofiev, qui est donc une œuvre de jeunesse de ce compositeur du 20e siècle, mais qui, lui, était un grand admirateur de Haydn, justement, et de sa musique.
OK.
Il a écrit sa première symphonie un peu en hommage à Joseph Haydn, presque 200 ans plus tard, évidemment, là. Mais c'est de la très, très belle musique, mais ce sont des... Disons, la première symphonie de Prokofiev, on l'entend quand même moins.
Oui.
Et on a une autre œuvre du 20e siècle... au milieu de ce doublé-là, qui est le concerto pour clavecin de Poulenc.
Oui.
Un morceau qui s'appelle Concert champêtre.
Oui.
Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. C'est pas très souvent donné. Déjà, le clavecin, c'est pas un instrument qu'on associe ou dont on s'imagine qu'il puisse être l'instrument soliste avec un orchestre symphonique.
Oui.
Mais Poulenc avait eu cette idée un peu saugrenue, peut-être, là, d'écrire un morceau pour clavecin et orchestre, mais aussi dans le style classique, même si on était déjà au milieu du 20e siècle là, et puis de la modernité musicale, Poulenc voulait écrire quelque chose dans le style classique. Donc ça, c'est demain soir, 30 juillet, à l'amphithéâtre.
Oui.
Et le lendemain, ben, on est un peu, j'ai envie de vous dire, dans l'univers de l'OSM, la musique française, Gabriel Fauré, Georges Bizet, qu'on connaît surtout pour l'opéra Carmen, mais qui a écrit aussi beaucoup d'autres très, très belles musiques.
Oui.
On va entendre samedi sa première symphonie en do majeur. Et on va accueillir aussi pour la première fois chez nous un violoncelliste canadien de premier ordre.
Brian Cheng.
Voilà. Oui. C'est la première fois donc qu'il va être au festival.
Wow.
Il va jouer de Camille Saint-Saëns. Un deuxième concerto pour violoncelle. Et là, il y a quelque chose de très amusant dans tout ça, c'est que il joue Brian sur un instrument qui lui est prêté et qui est l'instrument, figurez-vous, sur lequel ce concerto de Camille Saint-Saëns a été créé.
Wow.
Au milieu du 19e.
Il doit être bien excité, lui, Brian.
Absolument, non. Puis c'est amusant parce que justement, quand on réfléchissait au programme, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis il m'a dit, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en fait, le deuxième concerto de Saint-Saëns, je joue sur l'instrument de la création, donc il me semble que ça pourrait être intéressant. Ben oui, c'est quand même rare ici.
Wow!
C'est un livre, ce genre de choses.
Oui. Eh oui, ça continue avec la suite, la suite avec Péléas et puis Mélisande de Forêt.
Voilà, ça c'est de la très belle musique aussi. Je pense que c'est on connaît pas nécessairement le titre ou on n'associe pas nécessairement Forêt et sa suite là, de Péléas à de la musique qu'on connaît, mais en fait, il y a des extraits qui sont archi connus là-dedans.
Oui.
C'est vraiment de la merveilleuse musique. Mais encore une fois, pensons à, j'ai envie de dire, au code génétique de l'OM.
Ouais. Wow.
Égalé peut-être dans le répertoire français, donc c'est vraiment une soirée sur les sommets.
Quel beau cadeau, mais les absents auront tort, hein?
Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison.
je reviens une de vos citations là, d'ailleurs. Hey, votre directeur général qui disait, comment il s'appelle, Xavier Roy. Allô?
Oui,
oh, voilà, qui dit, grâce au festival de Nodia devient le pôle canadien de la musique classique chaque été.
Ah, ben, c'est exactement ça.
Oui.
C'est exactement ça. Puis, comment dire, encore une fois, il reste de la place. Les gens ne doivent pas hésiter. Simplement aller vers le site du festival, lanaudière.org, hein, lanaudière.org.
Oui.
Il reste de la place sous le toit, il reste de la place sur la pelouse. Bon, après, moi, je trouve que ça sort sur la pelouse, c'est très beau aussi. Hein, ça fait partie d'une belle expérience champêtre. C'est sûr que on est un peu plus à la merci des intempéries. Oui. Il fait mauvais.
C'est
mais
ça.
Jusqu'à maintenant, on est très chanceux. Il a fait très beau, puis je pense qu'il va faire beau encore en fin de semaine.
Oui. J'espère qu'on aura une belle température pour que les gens puissent vraiment se déplacer au maximum et puis bon, ben, faire découvrir la musique classique. Bon, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup plus de gens cette année par rapport à l'année passée ou bien c'est...
Ah, ben, si vous voulez, je fais une réponse simple. Il y a plus de gens parce que l'année passée, il n'y avait personne.
Il n'y avait personne, ça, au fait.
Bon, si vous voulez, la jauge de l'amphithéâtre, elle est limitée, hein, parce qu'il y a des mesures de distanciation là, qui sont toujours en vigueur.
Oui.
Donc, elle est limitée à environ 1500 personnes.
Oui.
Donc, c'est beaucoup moins que ce qu'on connaît habituellement. C'est à peu près le quart de la jauge normale. Mais la beauté de l'affaire, c'est que depuis le début du festival, encore une fois, on joue pratiquement à guichet fermé.
Oui.
Ça veut dire que les gens sont prêts à sortir, sont prêts à se retrouver. Puis on est tellement heureux aussi de pouvoir accueillir ce public-là là, à l'amphithéâtre. Et puis voilà, il faut absolument pas bouder son plaisir, il faut en profiter.
Oui.
C'est maintenant ou jamais.
Mm-hmm. Et comment ça se passe les concerts dans les parcs et les espaces publics?
Ben voilà, ça c'est une nouveauté. Hein. C'est la première fois qu'on a cette proposition de concert dans les parcs. Tout ça est assez spontané, c'est-à-dire que les programmes sont déjà arrêtés.
Oui.
Mais on annonce les concerts en fait le jour même parce que on ne doit pas créer d'attroupement trop grand. Hein. Mais ça se passe très bien. On a un site aussi qui n'est pas très loin de l'amphithéâtre qui s'appelle le Parc Riverain à Joliette.
Oui.
Ça, c'est une très belle randonnée aussi pour les gens qui éventuellement viendraient de l'extérieur. Une très belle randonnée derrière l'amphithéâtre.
Oui.
Qu'on peut faire en une heure ou deux. Et là, sur ce chemin-là, en fait, il y a un endroit où éventuellement, les gens vont rencontrer des musiciens qui vont leur jouer pendant 30 ou 40 minutes. Là,
oui.
Des morceaux, voilà. C'est très beau aussi. Puis on trouve que c'est important aussi de finalement rapprocher le festival de la vie. De la vie quotidienne aussi.
Oui. On trouve dans ce parc-là, d'ailleurs, en plein air, il y a le Quator Cobalt Air de Liberté au parc Riverain.
Voilà.
Samedi 31, c'est-à-dire après-demain, de 13h à 15h, et dimanche 1er août, c'est l'ensemble de l'Orchestre des Jeunes de Joliette. Hein.
Ah, ben oui, voilà.
Voilà. Parle-nous un peu de ce groupe-là, de cet ensemble de jeunes de Joliette-là.
Oui.
Renaud?
Ah oui, pardon.
S'il vous plaît, parlez-nous un peu de ce de l'Orchestre des Jeunes de Joliette.
Ah ben oui, ben non, mais voilà, ben ça c'est un ensemble important aussi, parce oui. que, si vous voulez, l'Orchestre des Jeunes de Joliette, c'est un ensemble qui a été fondé il y a un peu plus de 50 ans déjà par un autre Claire Saint-Viateur, un collègue.
50 ans?
Oui, le père Roland Brunel.
Wow.
L'orchestre a été fondé donc en 69, on s'apprêtait, 1970,
oui.
parce qu'on s'apprêtait en 2020 à souligner justement son 50e anniversaire.
Mm-hmm.
La pandémie a entravé ces plans-là, malheureusement. Mais on est heureux, justement, aussi, c'est presque naturel hein, de s'associer à eux, parce que c'est une tradition, une autre très belle tradition musicale, lanaudoise, joliettienne, et puis voilà.
Ils sont à la maison.
Voilà, exactement.
Oui, et ça va se passer à 14h, au Parc La Joie.
Voilà.
Oui. Oui. Et la web diffusion, est-ce que ceux qui, vos techniciens, ils vous ont laissé entendre un peu, les gens qui suivent?
Oui, ça continue encore, voilà. Donc, par exemple, le concert de samedi dernier avec le Violon du Roi, mm-hmm. il va être disponible en web diffusion d'ici, je pense, quelques heures ou au plus 24 heures et pour une période d'une dizaine de jours. Et il y aura aussi plus tard un concert de Marc-André Hamelin, un des deux concerts de Marc-André Hamelin qui donc sont prévus pour la semaine prochaine.
Oui.
Le premier, celui du 6 août, dans lequel Marc-André jouera les concertos 1, 2 et 3 de Beethoven. Celui-là sera aussi offert subséquemment en web diffusion.
En web diffusion.
C'est pas plus mal aussi parce que pratiquement, il reste pratiquement plus de place, malheureusement. J'en ai dit malheureusement. Mais c'est pas que ça nous rend malheureux. Mais
ah non.
On aimerait avoir plus de place quand même pour accueillir les gens. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est peut-être une alternative.
Oui, ouais. oui. Des chants d'amour avec le chœur de l'Orchestre Symphonique de Montréal sous la direction
voilà,
de son
chef.
Ouais. Andrew Medill, voilà, ouais, disponible à Capella, bien sûr. Et puis, comment destination Buenos Aires avec les violons du roi, la direction
voilà,
de Nicolas Ellis,
voilà.
tout ça. Et les billets, parce que y a pour les spectacles en salle, les gens peuvent toujours se procurer des billets ou bien.
Oui, tout à fait. Il en reste à l'amphithéâtre, en tout cas, mais. J'encourage les auditeurs à, encore une fois, à ne pas trop hésiter parce que, encore une fois, les jauges sont réduites, il en reste, mais on est plutôt, la tendance est à une disparition rapide des stocks de billets.
Oui. Alors, pour les dernières minutes qui nous restent, la minute et demie qui nous reste, quel message lancez-vous à ceux qui nous écoutent là, qui hésitent encore d'aller. De se déplacer.
Ah, ben, écoutez, non, oui, il faut pas hésiter. C'est tellement, vraiment, puis je le dis comme presque comme quelqu'un de l'extérieur. Moi, je reviens à Joliette l'été et je suis au 7e ciel. C'est un merveilleux festival. L'atmosphère est vraiment très, très belle aussi cette année parce qu'on sent que les gens sont heureux de revenir. Les artistes sont tellement heureux aussi de
oui.
retrouver le public.
Oui.
Et tous nous le disent. Le contact, la vraie vie leur a manqué.
Oui, cette vraie
donc,
vie qu'on n'a pas eu l'année passée.
Non, voilà, vraiment, je pense qu'il faut en profiter. Il faut en profiter. Des fois, les gens à Montréal s'imaginent que Joliette, c'est très, très loin. C'est compliqué. Je veux dire, donc, franchement, c'est une petite heure de voiture.
Mm-hmm.
rien de pire. Et puis, ça vaut absolument le déplacement. Les gens peuvent passer un moment aussi dans la ville de Joliette.
De Joliette.
Il y a un très beau musée. Enfin, il y a toutes sortes de belles choses à faire. Là, puis de terminer la journée avec un concert à l'amphithéâtre, franchement.
OK. Idéal. Dans les dernières 45 secondes qui nous restent, Renaud, est-ce que vous êtes satisfait de cette édition 2021?
Ah oui, très satisfait. Encore une fois, on a voulu être ambitieux, on a voulu faire le plus possible pour le public et pour les artistes, mais la grande inconnue, c'était le comportement du public. On ne pouvait pas vraiment savoir si les gens allaient revenir, s'ils allaient être prêts à se rassembler à nouveau, puis la réponse est oui. Donc, on est vraiment très heureux. Le festival se termine. En fait, on a cette fin de semaine, puis la fin de semaine suivante, et puis je pense, j'ai l'impression d'avance qu'à la toute fin, je vais me dire qu'on en aurait certainement pris un peu plus encore.
Merci beaucoup, Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de la Naudière. Au plaisir de vous réentendre l'année prochaine pour ce même festival qui est devenu un classique mondial.
Avec grand plaisir.
Merci à vous et bon festival.
Merci beaucoup, Fulgence Blanc. Au revoir.
Merci, au revoir.
Encore une valse, mais d'un tout autre genre. C'est En avril à Paris de Trenet, arrangé par le pianiste Alexis Weissenberg.
Marc-André Hamelin Weissenberg, grand pianiste, un grand pianiste. Pour ceux qui n'ont pas encore fait les déplacements, déplacez-vous là-bas, allez-y voir ces grands artistes. Merci à toi Maurice, merci à Myriam Larache, notre chroniqueuse de sport, et puis le directeur artistique du Festival de la Naudière, Renaud Loranger. Merci pour cette entrevue encore. Et puis bon ben, merci à vous chers auditeurs et auditrices. On se retrouve demain, voilà, sur les ondes de Canal M. Et on vous dit ciao. Bah.